France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Aujourd'hui, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Jeudi dernier, Béatrice, 56 ans, a été tuée chez elle à l'arme blanche par son conjoint. C'est la 149e femme à avoir été tuée en raison de son genre depuis le début de l'année 2025. Depuis le mouvement MeToo, des notions comme le féminicide, le non-consentement, le contrôle coercitif, le suicide forcé, le syndrome d'aliénation parentale sont décortiquées, explicitées, documentées, étayées, valorisées ou parfois remises en cause par les professionnels de la justice. Alors comment la justice s'en saisit-elle? Comment apporter les preuves d'une emprise ou d'un suicide forcé alors que les femmes continuent d'être décrédibilisées et décrites souvent par leurs agresseurs comme hystériques? Le système judiciaire est-il suffisamment armé pour apporter des réponses adaptées aux violences subies par les femmes? Pour en discuter et en débattre également, trois invités ce soir. Karine Bourdier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate et coprésidente de l'Association des avocats pénalistes. À vos côtés, Sophie Bardiot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate, conseillère à la Cour d'appel de Paris, coordinatrice du pôle violence intrafamiliale. Face à vous, Pauline Chanu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et documentariste. Vous avez publié en octobre « Sortir de la maison hantée », « Comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes ». C'est aux éditions La Découverte. Et vous êtes également l'autrice, entre autres, d'un LSD diffusé sur France Culture, réalisé par Annabelle Brouard et intitulé « Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée ». Merci à vous trois d'être présentes ce soir dans Question du soir.
Je vais vous lire l'extrait qui concerne la partie, qui est la mienne en fait. Élément clinique psychopathologique. Madame X pénètre dans notre cabinet avec une posture d'effondrement qui paraît quelque peu surjouée. Que cette posture soit surjouée et apparaisse au fond assez peu authentique n'enlève rien au fait que Madame X est véritablement en souffrance. Au moment de notre entretien, Madame X ne présente pas d'anomalie psychique de nature structurale. En revanche, au plan de la personnalité, nous relevons chez Madame X des traits hystériques qui, indépendamment d'une expressivité théâtrale, se laisse appréhender par des plaintes abandonniques, une forte demande de reconnaissance narcissique et phallique, une déception fondamentale vis-à-vis des figures masculines et un positionnement très critique, voire agressif vis-à-vis des figures féminines. Enfin, puis ça dure, voilà, c'est l'hystérie, au fin fond.
Voilà. Un extrait, Pauline Chanu, de votre série documentaire diffusée sur France Culture et intitulée « J'en ai parlé, les fantômes de l'hystérie ». On va passer sur les expressions choquantes exprimées dans cet extrait. Posture surjouée, pose authentique, très hystérique. Qu'est-ce qu'au fond cet extrait-là raconte sur la façon dont les femmes, leurs paroles sont prises en compte, notamment par le système judiciaire et les professionnels de la justice?
Oui, ce que je peux peut-être commencer par faire, c'est présenter Emma et donc les violences qu'elle a vécues. Emma, en fait, je l'ai rencontrée lorsque j'ai commencé ce travail sur l'hystérie, c'était il y a 4 ans maintenant. J'avais fait un appel à témoignages pour savoir si les femmes, enfin si des femmes avaient encore aujourd'hui été diagnostiquées hystériques. Et c'est là que j'ai découvert qu'en effet, il y avait des diagnostics d'hystérie qui étaient encore posés dans les hôpitaux, mais qu'il y avait aussi des diagnostics d'hystérie qui pouvaient être posés dans les expertises psychologiques lors de procès ou d'audience pour violence conjugale, violence intrafamiliale, voire dénonciation d'inceste. Et donc Emma, en fait, elle a vécu des violences psychologiques et des violences physiques et des viols pendant des années. Elle a vécu aussi du gaslighting, de la manipulation. Elle a été isolée, elle a perdu son travail. Elle a été manipulée pendant des années, jusqu'à croire elle-même qu'elle avait des troubles psychologiques. Et donc, elle a été emmenée à l'hôpital psychiatrique, elle le dit dans ma série, par son bourreau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle arrive à l'hôpital psychiatrique, les médecins ne décèlent pas du tout le traumatisme. Mais non seulement ils ne le décèlent pas, mais quand l'agresseur arrive à l'hôpital, ils disent « Vous avez de la chance d'avoir un mari comme ça ». Donc on voit que là, les médecins sont pas formés à reconnaître les violences. Et ensuite, lorsque Emma sort de l'hôpital psychiatrique, lorsqu'elle va se présenter devant la justice, elle va recevoir cette expertise qui reprend en fait les propos de l'agresseur, puisque l'agresseur a été reçu par la même experte avant Emma. Et on se rend compte que le traumatisme se répète, c'est-à-dire que Non, Emma n'est pas folle. Elle a en effet des symptômes de stress post-traumatique et ça se retourne contre elle. Elle n'est pas écoutée, elle est considérée comme hystérique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parle de déception envers les figures masculines. Mais donc, quand on a été victime de violence pendant une dizaine d'années, oui, on imagine qu'elle est un peu déçue.
C'est également avec ces fragments d'expertise, Pauline Chanu, que vous entamez votre livre. Je vais en livrer quelques-uns à l'antenne. Elle devient hystérique, elle s'est mise à me pousser, je la repousse, elle tente de me pincer les parties génitales. Elle n'a pas la mâchoire cassée. Une autre, c'est une fille hystérique, tellement elle est tarée, elle est capable de se mettre des coups et dire que c'est moi. Encore une pour finir, elle se casse l'arcade toute seule. Je ne sais plus comment la gérer. Je tiens à préciser que mon épouse marque très vite quand elle se cogne, fin de citation. C'est vous, entre autres, Karine Bourdier, Sophie Bardiot, pardonnez-moi, qui montre à Pauline ces fragments d'expertise. Là aussi, on observe des récurrences et des récurrences dans l'emploi d'un terme et ses dérivés, hystérie et hystérique. Pourquoi utiliser ces expressions-là, justement? Pourquoi les personnes inculpées les emploient?
Alors effectivement, moi, je
les hommes, en l'occurrence.
Oui. Je rencontre Pauline Chanu alors qu'elle est en train d'effectuer ses recherches pour son ouvrage, et elle vient nous interroger sur le fait de savoir si nous lisons au quotidien encore dans des expertises des diagnostics d'hystérie chez des femmes victimes de violences conjugales. Objectivement, c'est la réponse qu'on lui avait fait collectivement à l'époque. Tout le mouvement sociétal de ces dernières années a quand même permis plus ou moins la disparition de ce type d'expertise qu'on a pu voir, effectivement, il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est quelque chose qui existe peu actuellement. En revanche, dans les cours d'appel, dans les tribunaux, pendant les audiences, au quotidien, toutes les semaines, plusieurs fois par audience, souvent, c'est ce mot qui est dans la bouche des agresseurs. Elle est hystérique et beaucoup de violents conjugaux, finalement, se défendent en indiquant qu'ils n'ont fait que répondre à une agression. Alors, le travail d'un magistrat, c'est de rechercher la vérité et c'est de tenir compte autant de la parole d'une victime que de la parole d'un prévenu. Donc on cherche dans les dossiers. Moi je cherche toujours, hein, sur le certificat médical qui a été établi au moment de son placement en garde à vue, des traces de blessures sur son corps, puisque vous les avez lues, hein, ces termes, c'est très violent. En plus, il parle de femmes qui étaient vraiment en furie et qui se sont jetées sur eux. Et on n'en trouve quasiment jamais. On en trouve de temps en temps.
Est-ce que, Sophie Bardiot, votre pratique a évolué au cours des 10 dernières années? Est-ce que ce terme-là d'hystérie, il évoque quelque chose de nouveau, notamment depuis MeToo? Est-ce que vous l'abordez différemment en tant que magistrate?
Moi, je travaille sur ce contentieux depuis 3 ans. J'ai eu d'autres vies professionnelles avant, dans d'autres fonctions qui n'avaient pas forcément de rapport avec celui-là. Je n'avais, quand je suis arrivée dans cette chambre où on ne juge que des affaires de violence intrafamiliale, aucun a priori. Sur un plan personnel, aucun, mais vraiment... aucune sensibilité féministe. Ça me valait des discussions enflammées avec certaines de mes amies.
Vous n'étiez pas féministe il y a 3 ans?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouvais que c'était une vision triste de la société. J'avais une vision très humaniste. Je considérais que voilà, j'avais pas envie de voir la société de manière genrée. J'avais pas envie de considérer les hommes comme... c'était pas du tout ma manière de penser. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une déformation professionnelle qui fait que, comme l'impartialité est notre colonne vertébrale, de toute façon, même dans notre vie personnelle, bah, on se met à essayer de penser de manière la plus ouverte et la plus neutre possible tout le temps. Et... au gré des audiences, j'ai coutume de dire que je me suis pris une claque, en fait. Voilà, je me suis assise dans cette salle d'audience, je me suis mise à faire que des dossiers de violence intrafamiliale, 2 à 3 audiences par semaine. Et cette claque, c'est parce que, alors que j'avais l'habitude de traiter des dossiers qui étaient... c'est des situations individuelles, hein, toujours un dossier, c'est une nouvelle affaire, des nouvelles personnes. Et bien là, ce qui m'était renvoyé, c'est que toutes ces victimes avaient des points communs, et que tous ces prévenus avaient les mêmes mots dans la bouche. Et ça, c'est vraiment très, très perturbant. Et vous parliez de la, pardon, de la formation. La formation, finalement, des magistrats, bah, elle a permis de répondre à ces questions-là. C'est un constat qu'on fait. On ne peut plus voir la société de manière non-genrée quand on va... Et les audiences sont publiques. Hein, j'invite tout le monde à aller s'asseoir dans une salle d'audience et à aller regarder ces procès toute la semaine. C'est plus possible, en fait, de nier cette réalité sociale-là.
Et vous êtes devenue féministe aujourd'hui ?
Je ne sais pas si je suis féministe. J'aime pas du tout le terme de magistrate militante, par exemple. Je trouve ça un peu condescendant et limite un peu paternaliste, d'ailleurs, de nous traiter de magistrats militants. Je pense que c'est une réalité. Le patriarcat, c'est une réalité sociologique, historique, culturelle, et que c'était profondément naïf de ma part de penser que ça n'existait pas, en fait.
J'en reviens aux mots et aux termes, Karine Bourdier, à ce registre bien plus large de la folie qui est employé pour décrédibiliser les femmes, leurs paroles, leurs témoignages, leur expérience. Ces termes-là, j'allais dire, de folle, de dingue, d'hystérique, est-ce que ce sont des termes que vous retrouvez vous-même dans votre pratique ?
Alors écoutez, moi je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'étais tombée de ma chaise quand j'avais entendu le témoignage et la lecture de cette expertise dans l'épisode de la série documentaire que Pauline Chanu a fait, et c'est absolument insoutenable d'entendre ces mots alignés comme ça par un expert. Ça pose plusieurs questions, moi, je trouve. Ça pose
déjà...
Vous
les avez jamais rencontrés, j'allais dire, dans votre vie professionnelle?
Alors, on rencontre régulièrement des expertises critiquables, hautement critiquables, mais ça pose déjà la question de la place qu'on donne à l'expertise dans le cadre des instances judiciaires et du caractère quasiment, comme un oracle qu'on confère à l'expert pour nous éclairer complètement sur la personnalité et les possibles travers des uns et des autres. Mais là, j'ai envie de dire, s'agissant des plaignantes, des victimes, et s'agissant aussi des mises en cause, c'est-à-dire qu'on lit aussi parfois, en matière d'expertise psychologique ou psychiatrique, des choses concernant les mises en cause qui nous laissent un peu sans voix parfois. Donc, il y a vraiment quand même un vrai sujet sur les conditions de formation et de travail des experts en matière psychologique et psychiatrique pour aboutir à relativiser quand même la valeur de leurs travaux quand on s'en sert, nous, dans le cadre des procédures judiciaires. Après, chacun a sa pratique. C'est-à-dire que moi, je crois pas avoir jamais traité qui que ce soit d'hystérique dans une salle d'audience, et je crois pas avoir jamais traité qui que ce soit de menteuse dans une salle d'audience.
Certains de vos collègues avocates, avocats le font ?
C'est pas ça, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que ça va pas m'empêcher, si je suis en défense, par exemple, sur des faits de type violence intrafamiliale, si j'ai accepté la défense d'un mise en cause, par exemple, et que je l'accompagne sur ce chemin-là, ça va pas m'empêcher, si j'ai des éléments de preuve pour démontrer que sur telle affirmation de la partie adverse, je peux démontrer que la vérité n'a pas été dite et que j'ai le moyen de rapporter la preuve contraire, je vais le faire. Mais en fait, il s'agit de la responsabilité de chacun que de traiter les justiciables avec respect, sans traiter les victimes de folles et d'hystériques. Et je tombe peut-être bien, mais c'est vrai que je trouve aussi qu'il en va de la responsabilité des avocats que de former aussi leurs clients, quand il s'agit des mises en cause en défense, ne pas venir raconter n'importe quoi devant un tribunal correctionnel ou un juge aux affaires familiales ou encore moins devant une cour d'appel.
Votre rôle, c'est aussi, pardonnez-moi, de former vos clients, pas uniquement de les défendre ?
Absolument. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer aux gens ce qu'il y a dans un dossier, c'est d'expliquer aux gens la consistance des preuves qui sont rapportées contre lui, et c'est de construire avec cette personne un chemin cohérent et intelligent, le plus intelligent possible, pour faire en sorte qu'à la fin, l'affaire soit bien jugé, c'est-à-dire la parole de la plaignante et lui, les moyens de sa défense pour aboutir à la décision la plus juste possible. Donc oui, c'est un travail pédagogique aussi avec nos clients.
Je voudrais qu'on aborde ensemble des notions pour tenter de comprendre si le système judiciaire a fait depuis MeToo une espèce de révolution silencieuse et féministe, et tenter de comprendre aussi comment votre travail a évolué. Commençons par le terme de féminicide avec vous, Pauline Chanu. Je le disais en introduction, Béatrice est la 149e femme cette année à avoir été tuée en raison de son genre. Vous qui avez, Pauline Chanu, travaillé sur cette notion de féminicide dans une autre série documentaire pour France Culture, comment est-ce que vous observez la diffusion de ce terme ? Est-ce qu'il correspond à une prise en compte, à un changement d'état d'esprit sur ce sujet ? Ou bien il vous semble qu'on est encore au milieu du guet, que dans le fond, on est venu découvrir une partie seulement de la réalité ?
Oui, bien sûr, je pense que ça change beaucoup les choses. Enfin, Omblie de Mahuzier, qui est une magistrate que j'interviewais dans ma série documentaire sur les féminicides que j'ai faite aussi pour France Culture, disait que même si le terme féminicide n'est pas encore dans la loi, en fait, il était déjà dans les tribunaux parce qu'il est déjà dans la société, parce qu'il est déjà dans les médias, parce que les policiers, les magistrats, les avocats sont formés avec la notion de féminicide. Donc, bien sûr, mais on voit que c'est une notion qui est encore mouvante, qui s'élargit, puisqu'on en parlait, par exemple, les chiffres des féminicides varient en fonction de qui les donne. on compte les féminicides conjugaux, mais maintenant on compte aussi les féminicides, par exemple, d'un fils sur son père, ou bien des féminicides transphobes. Enfin voilà, donc on commence à élargir cette notion, ce qui est fait depuis longtemps dans d'autres pays, et notamment en Amérique du Sud. Et on peut aussi parler de... Maintenant, on parle aussi de féminicide direct et féminicide indirect. Là, c'est un terme qui est apparu la semaine dernière dans les médias après la publication des chiffres sur les suicides forcés. Donc les suicides forcés maintenant font partie des féminicides. Donc le suicide forcé, c'est le fait... C'est quand on réussit à prouver, ce qui est très rare et très compliqué, qu'il y a un lien entre le suicide d'une femme, enfin voilà, en grande partie ce sont donc des femmes, et le fait d'avoir subi du harcèlement répété de la part d'un conjoint. C'est pas forcément de prouver l'intentionnalité, mais néanmoins il faut quand même prouver le lien, ce qui est compliqué parce que souvent on dit que le suicide est multifactoriel, donc c'est compliqué. Voilà, donc on voit que cette notion elle bouge encore, mais ce qui est sûr c'est que ce qui change c'est qu'on parle plus de crime passionnel, même si les agresseurs peuvent peut-être que vous, de votre côté, vous le voyez encore, mais les agresseurs parlent encore de ce truc de passion, de débordement, etc. Mais en tout cas, on voit bien que...
De meurtre par amour, hein, c'est ce qu'on entend aussi sous l'expression de crime passionnel.
Oui, oui. Et même, en fait, je trouve que là où ça rejoint quand même l'imaginaire de l'hystérie, de la folie, du débordement, c'est que quand on pense au féminicide peut-être le plus connu aujourd'hui en France, celui de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, lui, il va jouer aussi là-dessus. Il va jouer sur le crime passionnel, mais il va jouer aussi sur le fait que c'était un couple très éruptif, qu'elle avait des accès de furie, mais comme si tout ça était constitutif d'une histoire d'amour passionnelle.
Elle est intéressante, cette notion de suicide forcé. Elle a été introduite dans la loi en 2020 et selon la mission interministérielle pour la protection des femmes en 2024, 906 femmes victimes de harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint se sont suicidées ou ont tenté de se suicider. Un chiffre en hausse de 17% sur un an. Sophie Bardiot, comment vous abordez-vous cette notion de suicide forcé? Et surtout, en tant que magistrate, cette question de la preuve, elle est centrale dans la démarche de cette notion?
Alors, elle est centrale, mais la difficulté à l'heure actuelle, c'est que je pense que les prises de conscience sur ces suicides forcés, elles sont relativement récentes et qu'il y a très très peu de dossiers qui arrivent jusqu'aux tribunaux. Moi, j'en ai vu un en 3 ans. Exclusivement, et pour l'instant nous ne jugeons pas à la cour d'appel en tout cas, d'affaires de suicide forcé.
Comment est-ce que vous expliquez que cela ne parvienne pas jusqu'à vous? C'est parce qu'il y a une réticence du système judiciaire à, j'allais dire, s'approprier la notion pourtant inscrite dans la loi, ou bien il y a une autre raison plus liée peut-être au fait qu'il est parfois difficile aussi de constituer ce type de dossier?
Je ne sais pas. Peut-être que il est même possible que nos problèmes de moyens entraînent pour un service d'enquête, hein, quand il se déplace sur, je vais être très prosaïque, mais quand il se déplace sur une scène avec un cadavre, on va faire les premières vérifications. Si on part sur une hypothèse de meurtre ou d'assassinat, on ouvre une enquête. Et si finalement on arrive à démontrer que c'est un suicide, ces affaires sont classées assez vite. Enfin, c'est pas forcément des affaires qui vont du coup motiver les enquêteurs qui ont par ailleurs énormément d'autres choses à faire pour approfondir, essayer de comprendre, etc. Et je pense qu'il y a effectivement, et Pauline Chanu en parle dans son livre, il n'y a que des alertes qui peuvent être faites par l'entourage, des plaintes qui peuvent être déposées par des membres de la famille qui pourront aider ces dossiers-là à sortir sur un plan judiciaire. Mais à l'heure actuelle, la tradition, c'est que quand c'est un suicide, on n'enquête pas.
Karine Bourdier, comment ça se passe effectivement pour prouver que le suicide a été forcé? On reconnaît un suicide dans un premier temps, il faut ensuite mener une enquête longue, compliquée auprès de l'entourage, de la famille, pour comprendre qu'il y a eu ce harcèlement moral et qu'il y a un lien de causalité entre ce harcèlement et le suicide reconnu?
Je vais rejoindre complètement le propos qui vient de vous être tenu par Sophie Bardiot, c'est-à-dire que moi, pour l'instant, à ce stade, je n'en vois pas dans le contentieux qui nous est soumis. Mais vous disiez à l'instant que, en fait, il faut évidemment regarder tout ça sous le prisme de la question des moyens. En fait, ce que je voudrais dire sur ces questions-là, c'est que tous les outils, on les a, moi, il me semble, aujourd'hui. Tous les outils pour lutter contre les violences faites aux femmes, on les a, ils ont été développés, parfois par la jurisprudence et ensuite adoptés par la loi.
Juridique.
Oui, je parle des outils juridiques. Vraiment, la boîte à outils juridiques, elle est là, elle est présente. La difficulté, moi, il me semble qu'elle est double, c'est-à-dire que déjà, elle résulte de l'illisibilité des dispositions légales qui font que, en fait, vous parliez donc de la disposition relative au suicide forcé votée en juillet 2020. Il faut aller la chercher à l'article 222-33-2-1, dernier alinéa du code pénal, si vous voulez.
C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tout au
fond? Ça veut dire que le code pénal est aujourd'hui, ça concerne pas que la question des violences faites aux femmes, mais est un empilement de dispositions, est un millefeuille qui devient illisible, y compris pour les praticiens du droit, et que c'est extrêmement compliqué ensuite pour le transformer en une formation qui soit efficiente, ce que nous impose pourtant la Cour européenne des droits de l'homme pour assurer la poursuite effective de ce type d'infraction. Et si on conjugue ça avec le manque de moyens, moi j'entends encore là hier que une loi cadre est prévue et devrait intervenir avec 63 mesures que pour l'instant je n'ai pas pu lire, mais si vous voulez, on est quand même dans une situation et dans un système judiciaire où il y a moins de 3 ans, le rapport Sauvé a diagnostiqué que l'état de la justice française était celui d'un état de délabrement avancé, avec des juges d'instruction qui croulent sous les dossiers, avec des chambres correctionnelles qui croulent sous les dossiers, avec des manques de greffiers partout, avec des effectifs qui sont insuffisants, avec des enquêteurs qui sont pas assez formés, qui n'ont pas les moyens d'être mieux formés, avec toujours des intentions très louables, c'est-à-dire que... Je vais vous donner un exemple. Je sors un peu du cadre de votre question initiale sur le suicide forcé, mais moi je dois accompagner là prochainement une jeune femme qui a été victime de viol récemment et que j'ai reçue à mon cabinet et que je vais accompagner dans son dépôt de plainte, puisque maintenant la loi prévoit enfin expressément que la victime peut être accompagnée par un avocat lors de son dépôt de plainte depuis seulement 2023, il faut le rappeler. Je vais l'accompagner. Eh bien, je suis en ce moment en train de réfléchir à la question de savoir quel est le service de police que je vais bien pouvoir choisir, moi, dans mon cabinet, en interrogeant mes confrères, mes consoeurs, et en ayant, moi, mon propre listing des endroits d'enquête de police dans lesquels j'ai le plus de chances d'être mieux reçu et dans lesquels j'ai le plus de chances que les gens soient formés et que des investigations soient diligentées rapidement. Et en fait, c'est quand même... incompréhensible qu'en 2025, on n'ait toujours pas, dans une ville comme Paris, par exemple, dans chaque arrondissement, un service de police dédié et compétent et formé avec des gens qui vous accueillent à toute heure du jour et de la nuit.
J'en reviens un instant à cette notion de suicide forcé avec vous, Pauline Chanu. On entendait de la part des deux praticiennes du droit présentes dans ces studios qu'il fallait, pour le prouver, pour en démontrer un lien de causalité avec du harcèlement, bien souvent mener une enquête auprès de la famille, auprès de l'entourage, mais il faut tout de même reconnaître que c'est bien souvent difficile de mener cette enquête puisque cette femme a été parfois, souvent même, isolée par son conjoint, ce qui nous amène d'ailleurs à une autre notion, celle de contrôle coercitif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pauline Chanu, de quoi il s'agit concrètement lorsque l'on parle de contrôle coercitif et comment l'isolement, j'allais dire, participe justement de cet isolement de la victime et des femmes victimes?
Oui, en fait, le contrôle coercitif, déjà, c'est ce qu'on retrouve toujours avant le féminicide. On s'est rendu compte de ça, que ça pouvait être aussi une alerte, une alarme pour que l'entourage puisse comprendre en fait ce que vit une victime. Le contrôle coercitif, c'est le schéma, la stratégie des agresseurs. En fait, on emploie encore le mot emprise aujourd'hui, mais on dit que le contrôle coercitif, ce serait un peu le pendant de l'emprise. En fait, l'emprise, c'était l'idée d'essayer de comprendre pourquoi cette femme n'était pas partie. Qu'est-ce qui avait pris chez elle, quoi. Et puis, il y avait aussi une dimension un peu psychologisante dans l'emprise. Quelle faille, qu'est-ce qui se passait de son côté. Alors que le contrôle coercitif, l'idée, c'est de regarder quelle stratégie l'agresseur a mise en place pour que cette femme soit prise au piège.
C'est un dispositif.
C'est un dispositif qu'on retrouve tout le temps. Et Sophie Bardieu le disait au début, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'en fait, c'est toujours la même stratégie. C'est-à-dire que ces hommes ne viennent pas des mêmes classes sociales, n'ont pas, parfois un travail, parfois n'ont pas le même âge, etc. Et ils mettent toujours en place le même schéma. Donc ça consiste... Généralement, ça commence plutôt par une relation qui est très intense au départ. Et puis après, il va souffler le chaud et le froid. Ensuite, il va faire en sorte d'isoler la victime, comme vous le dites. Ça peut passer par le fait de lui faire perdre son emploi. Alors pas directement, ça va être ton travail n'est pas assez rémunérateur par rapport au mien, il vaut mieux que tu t'occupes des enfants, ou c'est pas très intéressant, ou tes collègues sont pas assez intéressants pour toi. Puis après, c'est les amis, puis après, c'est la famille. Donc effectivement, à la fin, il n'y a plus aucun témoin. Pour voir les violences que cette personne vit. C'est aussi le fait de dévaloriser, c'est aussi le fait de dénigrer, c'est aussi le fait de donner des injonctions contradictoires. Il va lui dire de préparer, qu'il aime, je sais pas, tel plat. Et puis quand elle l'aura préparé, il va lui dire je déteste ce plat. Ça va être là, j'interviewais pour Les Pieds sur Terre pour un reportage qui n'a pas encore été diffusé, une femme qui me disait que parfois son mari s'installait à table, il parlait pas et elle lui pose une question et puis là il lui dit mais je t'ai déjà répondu. Tu n'entends rien, en fait. Tu n'écoutes pas. Et puis voilà. Et donc, en fait, on voit comment ils jouent sur les perceptions. Donc, ça a pour conséquence, à la fin, que ces femmes, oui, peuvent penser qu'elles sont folles. Et par ailleurs, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que ce qui est hyper étonnant, c'est que s'il y a très, très peu de condamnations pour suicide forcé, pourtant, on retrouve tout le temps, dans le discours des victimes, enfin, dans les témoignages des victimes, le fait qu'elles aient songé à se suicider. Ça revient tout le temps.
Un témoignage sur le contrôle coercitif issu, là encore, de la série documentaire intitulée « Les fantômes de l'hystérie ».
Ben, je dirais que à longueur de temps, quand on vous insulte, qu'on vous dénigre, qu'on vous humilie, qu'on vous répète que vous n'êtes en rien, qu'on vous marche sur les pieds, qu'on vous bouscule dans le couloir, qu'on vous tabasse, qu'on vous prive de sommeil, de nourriture, il y a un moment où effectivement, je pense que vous sombrez dans un déni de soi. On est un objet, on n'est plus rien. Et il est allé jusqu'au bout. Il jouait la marche funèbre au piano en boucle. Puis rentrait le midi, il vous mettait la main sur la tempe en forme de revolver. Enfin voilà, c'était de la violence psychologique, les privations de sommeil, la nourriture. D'ailleurs, il ne cessait de m'expliquer à la fin, de toute façon, je foutrai tout en l'air, toi, la maison, les enfants avec, je te la ferai à la de Ligonesse. Et toutes ces menaces, à un moment, c'est quand vous vivez dans cette peur permanente, vous savez pas comment vous en sortir, en fait.
L'Assemblée nationale a adopté le 28 janvier dernier la proposition de loi visant à créer une nouvelle infraction pénale de contrôle coercitif. Sophie Bardiot, en tant que magistrate, là encore, une nouvelle fois, qu'est-ce que cela a modifié dans votre pratique ?
Alors, le contrôle coercitif, c'est une notion qui arrive en jurisprudence, qui est arrivée récemment. Elle a été consacrée pour la première fois par des collègues sur des arrêts qui ont été rendus en janvier 2024. J'ai relu ces arrêts avant de venir à cette émission. Et au final, sur les 5 cas d'espèce, il y avait des violences graves et un harcèlement grave. Donc le contrôle coercitif, c'est pas une notion dont les magistrats avaient ou ont nécessairement besoin pour pouvoir condamner dans des hypothèses où on n'avait pas les outils juridiques pour. Généralement, les hommes qui mettent en œuvre un contrôle coercitif vont finir par commettre soit des faits de violence, soit des faits de harcèlement. En revanche, c'est une grille d'analyse. Pour nous, c'est une grille d'évaluation de la dangerosité et c'est surtout quelque chose qui va permettre aux magistrats de prendre une sanction qui est plus adaptée. Et ce qui est important à l'heure actuelle, c'est que quand une femme vient déposer plainte pour des violences ou quand il y a une intervention policière à un domicile pour des violences, que toutes les questions soient posées à cette victime pour essayer de comprendre si elle se trouvait par ailleurs en situation de contrôle coercitif, parce que ça va ensuite influer sur tout le reste. Ça va influer sur les poursuites qui vont être engagées. Soit on va poursuivre cet auteur pour une gifle donnée le 24 septembre 2024, soit on va pouvoir le poursuivre pour des violences habituelles qui ont duré 5 ans, et ça ne sera pas la même peine, en fonction de l'un ou de l'autre. Et par ailleurs, c'est un excellent facteur d'évaluation de la dangerosité. Ce que disait Pauline Chanu, les hommes qui mettent en œuvre ce type de mesures sont des hommes qui sont capables d'un passage à l'acte beaucoup plus grave et d'un féminicide. Donc pour nous, c'est un excellent indicateur. Et par ailleurs, c'est un excellent indicateur également de l'état psychique de ces victimes, puisque leur préjudice est beaucoup plus important.
Et en miroir, c'est aussi une notion, on parle du contrôle coercitif, une notion qui permet de répondre à cette question. Pourquoi cette femme, alors qu'elle était menacée, n'est pas partie avant ? La notion de contrôle coercitif permet de mieux comprendre pourquoi elle était retenue dans les fers, très souvent, du domicile familial, Karine Bourdier.
Oui, mais après, c'est aussi, en fait, les tribunaux, c'est aussi des lieux de reflet de la vie, et les magistrats sont des citoyens aussi, en même temps qu'ils sont magistrats, féministes ou pas, en fait.
Et je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que je veux dire, c'est que je trouve, moi, que la façon dont la justice, quand même, fait vraiment, vit une évolution très concrète, avec souvent la meilleure volonté des uns et des autres pour s'emparer de ces concepts et de ces notions, puisque c'est ce que Sophie Bardieu vous disait, c'est-à-dire que le contrôle coercitif, ça arrive à un moment donné dans l'arsenal par le biais de décisions de la Cour d'appel de Poitiers qui vont être très importantes et qui vont ensuite se diffuser dans toutes les autres jurisprudences. Mais en fait, tout ça demande de dézoomer. Tout ça, ça demande de dézoomer sur le sort des femmes dans nos sociétés contemporaines, ça demande de dézoomer sur les inégalités salariales encore, pourquoi est-ce que c'est difficile de partir de chez soi quand on a un salaire moindre et qu'on peut pas prendre un logement seul avec ses enfants, ça demande de dézoomer sur le lien qui fait que les femmes liées justement par la présence des enfants au domicile ne partent pas alors qu'elles sont dénigrées, humiliées tous les jours, etc. Et en fait, ce que l'intérêt aussi qu'il y a dans tout cette espèce de travail collectif d'évolution sociétale et d'évolution judiciaire, c'est que les uns les autres, appréhendant mieux, de mieux en mieux tous ces concepts, on peut aussi de mieux en mieux accompagner les gens qui viennent nous voir et nous aussi, dans nos cabinets, pointer à un moment donné des signes de danger, avoir des espèces de grilles de lecture professionnelle qui nous permettent de dire, là, vous me signalez pas juste une gifle ou quelque chose, un événement isolé. Le contrôle coercitif, ce qu'il a de passionnant, c'est que ça parle de continuum de violence et qu'en fait, ça permet par tout un tas de critères qui pris isolément n'auraient pas fondé une condamnation, de dire là effectivement il y a une mise sous coupe de la victime qui fait que elle est en danger.
Certaines notions émergent, aident, accompagnent, on vient d'en évoquer certaines. D'autres en revanche deviennent obsolètes. Je voudrais qu'on parle du syndrome d'aliénation parentale. Pauline Chanu, est-ce que vous pouvez là encore nous décrypter de quoi s'agit-il et pourquoi c'est une notion au fond qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui ?
Le syndrome d'aliénation parentale, c'est un concept qui a été forgé par un psychologue états-unien qui s'appelle Richard Gardner dans les années 80 et qui n'a aucun fondement scientifique. D'ailleurs, je crois qu'il n'a même pas réussi à le publier, donc il s'est auto-édité. Mais pourtant, le concept a fait le tour du monde et a été très intégré dans les tribunaux. Ce que ça signifie, c'est que... ce qu'il veut dire par là, c'est que la plupart du temps, en fait, lorsque les mères dénoncent l'inceste de leur conjoint sur leurs enfants, elles mentent et c'est elles-mêmes qui ont mis dans la tête de leurs enfants ces agressions supposées. Donc elle les manipule dans l'idée de se venger de leur conjoint, par jalousie parce qu'il est parti avec une autre, etc. Et donc ça a été en fait très utilisé. Normalement, c'est censé avoir disparu des tribunaux. Ça a été interdit par le Parlement européen en 2021, je crois. Et pourtant, le concept subsiste et le risque évidemment, enfin en creux on l'entend je pense, mais c'est que ces femmes ne soient pas crues, donc que ces enfants ne soient pas crues et que les violences puissent continuer et parfois même que les enfants soient remis à l'agresseur en pensant que voilà c'est la femme qui a des troubles psychologiques et qui ment. Et on le voit très bien dans le film On vous croit qui est sorti il y a une dizaine de jours au cinéma. C'est exactement ce que ça raconte, c'est comment comment potentiellement l'agresseur peut jouer sur cette idée de la femme folle qui veut se venger de lui parce qu'il est parti avec une autre femme.
En quelques mots, Sophie Bardiot, cette notion de syndrome d'aliénation parentale, comment est-ce qu'il a été utilisé des années durant dans les tribunaux, et est-ce que vous observez vous-même un reflux de l'usage de cette notion aujourd'hui ?
Oui, on la voit quasiment plus. Je pense qu'elle a été utilisée à l'époque, d'abord parce qu'elle était dans nos expertises. Moi, à l'époque où elle était en vogue, j'étais juge aux affaires familiales et elle figurait dans nos expertises. Et les magistrats n'étant pas ni psychologues ni psychiatres, on se base sur des avis de professionnels et on la retrouvait. Et je pense que finalement, toutes ces dernières années, le sujet qui est porté dans la société politiquement, ce sont les violences faites aux femmes. Il y a 10-15 ans, le sujet qui était porté, c'était les droits des pères. Et la restauration des pères dans leur parentalité, les nouvelles familles, tous les bouleversements qu'avait pu amener l'accès des femmes à une activité professionnelle, etc. Et finalement, c'est arrivé au même moment. Et donc, il y avait un mouvement dans les juridictions des affaires familiales de restaurer les pères dans leur... dans leur place. Et en même temps, il y a eu ce mouvement avec des experts qui nous écrivaient que les mères étaient aliénantes, qu'elles cherchaient à tout prix à couper le lien. Et avec tout ça, c'est mélangé ou trop, dont les conséquences aussi ne doivent pas être minimisées, je trouve, sur le poids qu'on a donné à la parole des enfants pendant des années.
Et notamment sur le temps long, extrait d'un autre documentaire intitulé « Celui-ci, je vais te tuer » de Karine Dufour, diffusé sur Arte cette année même.
Je pense qu'à ce moment de la procédure, il faut que nous évoquions une pièce qui a été versée par la Défense. Hein, on va l'écouter ensemble et comme ça vous permettra d'en prendre connaissance et puis bien sûr de me dire ce que vous en pensez.
Et je te préviens, c'est la dernière fois que tu m'accroches au nez parce qu'autrement je te cogne. C'est bon?
Oui, oui, d'accord. Mais je te ramène dans une autre.
T'as compris le message là? T'as compris le message? Ma dorénavant, je vais te cogner, c'est clair? Puisque je suis plus personne pour toi, puisque tu t'es foutu de ma gueule, et ben pourquoi je fais des efforts? Je vais te cogner dorénavant. T'es plus rien, t'as tiré un trait sur tout ce qu'on aurait pu vivre ensemble et tout ce qu'on a déjà vécu. Tout ça parce que t'es qu'une salope dans l'âme depuis toujours. Donc fais la maline avec moi, parle-moi mal encore une fois, raccroche-moi au nez, je te cogne.
C'est quand même d'une violence extrême ce que vous dites, alors, hein, avec un vocabulaire extrêmement violent.
Effectivement, les mots sont là pour toucher. Ça peut être choquant, je l'entends.
Alors, ça n'est pas que choquant, monsieur, c'est constitutif d'infraction pénale.
Et on finit. Karine Bourdier, justement, cet extrait, comment exemplifie-t-il le fait que la notion même de preuve aujourd'hui tend à évoluer? On a entendu un enregistrement, et normalement, un enregistrement, est-ce que cela peut être utilisé comme preuve dans le cadre d'une démarche comme celle-ci, puisque l'autrice, la victime a été victime de violences sexistes et conjugales?
Alors, moi, je suis à peu près certaine que si vous arrivez avec un enregistrement comme ça dans un commissariat de police avec des gens compétents et que vous le présentez aux enquêteurs, oui, ça va être considéré comme une preuve tout à fait admissible. La Cour de cassation dit aujourd'hui qu'en matière civile, des preuves même obtenues de façon déloyale peuvent être admises en justice à partir du moment où elles ont une place prépondérante dans le fait de rapporter justement la preuve des faits qui sont dénoncés.
On parle de preuve déloyale aujourd'hui.
Oui, alors, enfin, à la base, le terme, c'est preuve déloyale. Vous n'êtes pas censé enregistrer quelqu'un à son insu pour vous en servir ultérieurement, mais dans ce type de situation, voilà, la Cour de cassation a admis parfaitement qu'une preuve obtenue de façon déloyale avec moult guillemets, enfin, les guillemets, c'est moi qui les mets, puisse servir de preuve ensuite dans le cadre d'une instance civile. De toute façon, au pénal, la preuve est libre, donc si vous voulez, il y a tout un faisceau d'indices que vous pouvez rassembler, y compris par rapport à la question des suicides forcés. Je dis pas que c'est pas difficile, hein, mais les témoignages et les attestations des proches, de l'entourage, les certificats médicaux des médecins qui ont été amenés à accompagner la victime, etc., etc. Tout un tas de choses qu'il faut absolument rassembler. Et d'ailleurs, nous, quand on accompagne des victimes qui vont avoir à se plaindre ou qui se sont déjà plaintes de faits de violence tels que cela, moi, je les encourage toujours à essayer de compiler le plus possible toutes les preuves, même celles qui leur semblent inutiles à la base.
Loyal, déloyal, utile,
voilà,
pour
que moi, ensuite, je puisse faire le tri et apporter tout ce qu'il faudra aux enquêteurs et aux services de police et aux services judiciaires ensuite pour appuyer le dossier, bien sûr.
Merci beaucoup à vous trois de ces explications, de ces éclairages. On aurait pu parler de bien d'autres notions et le consentement en premier lieu. Mais on a choisi de se concentrer sur ces notions grâce à vous trois. Karine Bourdier, avocate et coprésidente de l'Association des avocats pénalistes. Sophie Bardiot, magistrate conseillère à la Cour d'appel de Paris, coordinatrice du pôle violence intrafamiliale. Et Pauline Chanu, journaliste documentariste. Vous avez publié, je le rappelle, en octobre dernier, Sortir de la maison hantée. Comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes? C'est aux éditions de La Découverte, et on recommande notamment l'écoute de cette série documentaire réalisée par Annabelle Brouard et intitulée Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée. Merci encore à vous trois d'être venus dans Question du soir.